Europe 1, 15h, 16h, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Bonjour. Du rêve, des frissons et du dépassement de soi, il nous en a donné, Alain Prost. Quadruple champion du monde de Formule 1 avec 51 victoires de Grand Prix, 106 podiums et 33 pole positions. Alain Prost demeure donc parmi les 5 meilleurs pilotes de toute l'histoire de la Formule 1, ce sport global qui sollicite autant les neurones que la résistance physique. Normal donc qu'il ait été nommé directeur non exécutif de Renault F1 Team. Mais en 2021, sans mauvais jeu de mots, hein, la F1 va prendre un grand virage avec de nouveaux règlements. Et à l'heure où l'intelligence artificielle règne en maître dans les salles de contrôle des écuries de course, eh bien voilà, est-ce que les pilotes de Formule 1 ne vont pas devenir des hommes augmentés? Bon, j'ai 1000 questions à poser à Alain Prost. Et ce qui est formidable, c'est qu'il est avec nous pendant une heure.
Europe 1.
Bonjour et bienvenue Alain Prost.
Bonjour.
Alain Prost. Alors, en moyenne, chaque année, je suis complètement néophyte, hein, mais passionné et je me suis renseigné. En moyenne, chaque année, 1,4 milliard de téléspectateurs regardent des programmes consacrés à la Formule 1. 650 millions de personnes suivent les courses de F1 en direct ou en différé à la télé. En tête, les Brésiliens, les Allemands et les Italiens. Mais les Français aussi sont très très friands de courses de Formule 1. Pourtant, en France, on a un vrai problème avec la voiture. Il y a quelques années, vous disiez au journal L'Équipe, Alain Prost, la France développe une phobie de la voiture et attaque sans cesse l'industrie automobile alors qu'elle est indispensable et que les courses sont un formidable banc d'essai pour la mise en place de plein de nouvelles technologies. Donc, pourquoi ce rejet affiché pour l'automobile quand les audiences des courses de F1 en France ont progressé de 50% ces deux dernières années? C'est une posture? Ce rejet affiché, c'est quoi? Une idéologie?
Ça correspond un peu au caractère des Français, peut-être, de critiquer ce qu'ils adorent d'une certaine manière, parce que l'automobile en France et l'industrie automobile a toujours été extrêmement importante. Alors, dans l'automobile même, dans le sport automobile, puisqu'il y a eu énormément de constructeurs, les premières courses d'ailleurs de Formule 1 ont eu lieu en France. Par contre, l'industrie automobile, enfin la voiture sur la route, elle a toujours été un peu controversée. Par les accidents, la sécurité routière, la consommation bien sûr, maintenant c'est l'émission de dioxyde de soufre, les polémiques sur le diesel, etc.
Mais controversé surtout en France, alors, plus que dans les autres pays européens.
Oui, il y a quelques années quand il y avait un peu ce qu'on appelle le car bashing, c'était vraiment en Europe et c'était vraiment beaucoup beaucoup en France, c'est sûr.
Alain Prost, vos débuts en Formule 1, c'était il y a très exactement 40 ans en Argentine. Bon, tout a changé depuis en Formule 1, à part l'adrénaline de la course. Et vous allez nous expliquer, en fait, ce qu'est aujourd'hui la vie d'un champion de F1, ses entraînements inattendus, les folies technologiques de sa voiture, car c'est absolument passionnant. Mais d'abord, j'aimerais qu'on évoque justement ces nouveaux règlements qui vont changer la donne des courses de Formule 1 dès 2021. Vous nous avez dit que désormais, il y aurait 22 grandes courses par an dans le monde, alors qu'il y en avait peut-être une douzaine, une quinzaine quand vous avez débuté. Ça va fondamentalement changer la vie des équipes, des ingénieurs et puis des mécanos.
Alors, moi j'ai commencé en 1980, il y avait 11 Grands Prix.
Ouais.
Après, il y en a eu en moyenne 15-16, maintenant c'est 22. Alors, et en plus, ils sont très loin. Quand vous allez en Chine, en Malaisie, au Japon, Australie, etc., c'est différent de faire l'Allemagne, l'Italie, la France, etc.
Bien sûr.
C'est compréhensible. Et bien entendu, alors, ça a évolué. Par exemple, nous, les pilotes, enfin, on sortait d'un Grand Prix, et le mardi, on était en séance d'essai privé. C'est-à-dire qu'on roulait à peu près 3 jours en moyenne par semaine.
Ouais.
Aujourd'hui, il n'y a plus d'essais. Les pilotes vont dans le simulateur.
C'est ça.
Ils vont à l'usine, donc c'est complètement, enfin, un métier différent. Ils ont quand même plus de temps que ce qu'on en avait, nous.
Mais vous n'aimez pas trop les simulateurs, vous, hein?
De toute façon, notre génération...
Oui, n'a pas connu, mais vous avez fait du simulateur, oui. Et je crois savoir que vous n'appréciez pas trop ça.
Non, c'est pas que j'apprécie pas, c'est que je suis malade.
Carrément?
Je suis pas bien, je suis pas habitué à ça, j'ai jamais joué aux jeux vidéo, et je sais que, par exemple, Michael Schumacher, Jenson Button, Mark Webber, des pilotes un peu de même de la génération, mais d'après moi, eux-mêmes ne pouvaient plus non plus. Alors que vous amenez un jeune pilote qui vient du karting ou de la F3, etc., vous le mettez en simulateur, il est tout à fait à l'aise. Mais par contre, ce qu'on disait sur les voyages et sur le nombre de Grands Prix, c'est les équipes elles-mêmes, les mécanos, les ingénieurs, etc. Ça devient très très compliqué. Quand vous avez des Grands Prix plus loin, et si vous en faites entre 22, on avait toujours dit que 19, c'était la limite. On est à 22, si on passe à 25, ça devient un peu plus complexe, parce qu'il va y avoir ce qu'on appelle des back-to-back, c'est-à-dire deux courses lointaines à une semaine d'intervalle. Les gens ne vont même pas pouvoir rentrer, il faut qu'ils aillent... Il y a quand même la préparation sur le circuit, etc. Donc c'est la vie familiale et sociale qui devient quand même un peu plus compliquée. Donc il va falloir le gérer, il va peut-être falloir faire des roulements, des équipes différentes. Donc c'est pas non plus peut-être l'idéal pour, en termes de coût.
Alors, dans ces nouveaux règlements, il y a également un design aérodynamique simplifié. Vous attendiez ça depuis longtemps, Alain Prost. Ça va permettre au talent des pilotes de reprendre un peu la main, d'avoir des courses plus disputées, avec plus de dépassements. C'est-à-dire que les voitures vont pouvoir s'affronter de plus près. Ça va rendre finalement les courses plus passionnantes qu'elles ne l'étaient.
Alors, c'est le souhait de tout le monde.
Dans l'idéal.
Dans l'idéal. Alors, il y a deux aspects de ce règlement 2021. Donc, il y a les aspects techniques, enfin réglementaires, surtout sur l'aérodynamique. Et puis, l'aspect budgétaire, parce qu'en fin de compte, les grandes équipes, celles qui dominent, parce que pour beaucoup, si vous demandez à plusieurs personnes différentes, de générations différentes, pourquoi ils aiment la F1 ou pourquoi ils l'aiment moins, oui. Vous allez avoir des réponses différentes. Vous allez avoir... Les anciens, les vrais fans qui vont dire mais c'est le bruit, ou d'autres vont, il y a moins de bruit donc c'est pas bien, il y a pas les, il y a d'autres qui vont dire c'est moins intéressant, mais en fin de compte c'est vrai qu'à l'époque quand on était avec Ayrton Senna on a gagné des courses avec un tour d'avance sur le troisième, mais aujourd'hui c'est plus tout à fait accepté. Par contre il y a un élément qui est important, c'est ce qu'on appelle la limitation du budget, le budget cap, où à partir de 2021 on va limiter les budgets, notamment pour ce qui concerne la technique. Donc ça va
rééquilibrer les chances.
Rééquilibrer un petit peu, mais ça prendra vraiment, vraisemblablement, un peu de temps quand même.
Europe 1. Je l'ai dit au début de cette conversation, j'ai 1000 questions à vous poser. Alors on s'interrompt vraiment un très bref instant et on trouve tout de suite le professeur, la légende, Alain Prost, quadruple champion du monde de Formule 1. Et c'est le seul pilote français à détenir ces titres. A tout de suite.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. 15h, 16h sur Europe 1. Europe 1.
Jusqu'à 16h, vous écoutez Il n'y a pas qu'une vie dans la vie avec Isabelle Morizet et son invité, aujourd'hui Alain Prost.
Alain Prost, vous avez grandi à Saint-Chamond, dans la Loire, où votre père André Prost avait son atelier de fabrication de meubles en Formica. Et vous étiez un enfant passionné de football jusqu'à ce jour où, l'année de vos 14 ans, en vacances sur la Côte d'Azur, eh bien, vous avez eu l'opportunité de grimper dans un kart pour participer à une course de karting improvisée sur le parking de la Siesta à Antibes. On aurait pu se croiser. Que s'est-il exactement passé cet après-midi-là?
Ce qui s'est passé, en fin de compte, très très peu de gens connaissent cette histoire qui, en fin de compte, a tout déclenché. C'est que j'avais un frère qui était plus âgé que moi, mais qui était très malade.
Oui.
Il était atteint à l'époque, parce qu'il a eu deux maladies différentes, d'une tumeur au cerveau. Et c'est lui qui était passionné de sport automobile, c'est pas moi. Voilà. Moi, c'était le football, c'était le sport. Enfin, j'ai commencé l'école du foot à 8 ans. Je faisais des croches, je faisais de l'athlétisme.
Oui.
Et je me suis cassé d'ailleurs le poignet en étant à la poutre, en faisant de la gymnastique.
Oui.
Je faisais tout ce que je pouvais sur le plan physique. Et lui, étant malade, ma mère vient me voir, me dire « Écoute, il veut aller faire du karting à la Siesta, Antibes, un karting de location. » Moi, j'avais le bras dans le plâtre.
Oui.
Je lui dis « Écoute, vraiment, j'ai pas du tout envie, moi, c'est pas mon truc. » Et je l'ai fait vraiment pour lui faire plaisir. Et je suis, voilà, on a fait les 10 minutes réglementaires de karting. Et puis après, il y avait cette petite course organisée. Et je suis parti dernier, j'avais le bras dans le plâtre, il fallait pas trop le montrer.
Vous partez dernier, le bras dans le plâtre,
oui.
Et vous gagnez la
Alors,
course.
Alors, je gagne, c'est une course de gens qui ont, enfin, de location, voilà. Mais j'ai vu une étoile. C'est-à-dire, je ne sais pas pourquoi, je me suis dit, mais ce truc-là, c'est pour moi. C'est ce que je veux faire. Et donc, je n'ai pas arrêté de penser à ça depuis ce jour-là.
Donc, vous avez, en fait, on ne vous a plus jamais entendu parler de foot à partir de ce jour-là.
J'ai continué un peu le foot, mais j'étais pas très loin de signer un contrat de stagiaire à Saint-Étienne.
Ah oui !
J'ai le bras dans le plâtre, je m'étais un peu fait mal au genou en faisant des crosses en montant sur un mur. Et donc, à ce moment-là, de toute façon, mes parents m'ont dit « bon, t'oublies l'idée ». Et je suis parti dans une démarche absolument incroyable. J'avais un copain qui était, son père était, enfin, une entreprise de déménagement, et lui faisait du karting. Donc je lui dis, écoute, je vais rien dire à personne. Donc je travaillais avec mon père, j'allais à l'école bien entendu en même temps. J'ai fait des petits boulots, je faisais des déménagements avec eux, dès que je pouvais.
Pour vous inscrire dans un club de karting ?
Pour m'inscrire dans un club de karting.
Sans que papa le sache ?
Mes parents ne savaient pas, mais surtout, il y avait un karting qui était en vente, enfin plus ou moins en vente. À l'époque, c'était 700 francs français. Et donc, j'ai dit à mes parents, à partir de maintenant, pas de cadeaux pour l'anniversaire, pour Noël, etc. Vous me donnez juste un peu d'argent. Ils ne savaient pas pourquoi c'était. Quand on allait au bistrot ou quand on allait avec mon frère au cinéma, je rentrais même pas au cinéma et je gardais l'argent que je voulais économiser. Et tout ça pendant un an et demi. Et le deuxième Noël, après, j'ai dit à mes parents, bon voilà, j'achète un karting.
Et vous êtes inscrit donc dans un club à Rive-de-Gier, c'est ça ?
Rive-de-Gier, exactement.
Et là, on vous a tout de suite repéré. On a tout de suite compris que vous aviez des dispositions que les autres n'avaient pas.
Oui, je pense. Et puis j'ai commencé les courses comme ça. Après, j'ai vu que ça allait être compliqué financièrement. Donc, je me suis rapproché d'un importateur à Paris que j'avais vu pendant une course et qui m'a beaucoup aidé d'ailleurs dans ma carrière. Et je lui ai dit, écoute, voilà, j'ai pas d'argent. Je voudrais être représentant de ta marque dans la région Rhône-Alpes.
Oui.
Et puis là, à partir de ce moment-là, je devais avoir 17 ans, j'ai appris à préparer les moteurs et je vendais du matériel dans la région Rhône-Alpes.
Pendant que vous faisiez les courses de cartes, et en devenant... Alors, ça c'est un truc très surprenant, il paraît que vous êtes d'abord devenu champion d'Europe junior de karting avant de devenir champion de France.
Oui,
c'est possible, une chose pareille ?
Exactement,
champion d'Europe, directement
ouais. Oui, et puis après champion de France en 1974, et grâce à ce titre de champion de France, j'ai eu une bourse de pilotage.
Pour entrer dans l'école Elf,
pour faire l'école de pilotage Winfield Elf au Castellet.
Mais alors, vos parents, ils étaient aussi fiers qu'inquiets ?
Sincèrement, je pense que d'abord, ils travaillaient énormément. Ils étaient extrêmement préoccupés par mon frère, c'est vrai. Et donc, ils m'aidaient à leur manière, ils me soutenaient, mais... en pensant que c'était quelque chose qui allait s'arrêter à un moment ou à un autre. Je leur demandais quoi ? Je leur demandais une fois de temps en temps de m'amener en voiture sur une course de kartes régionale.
Oui.
Sinon, j'allais avec mes copains ou les gens du club, etc. Et donc, ils ont un petit peu subi ma passion, mon envie de faire, mais surtout ma détermination. C'est vraiment de cette période dont je suis absolument le plus fier.
C'est formidable. Alors, je rappelle qu'en 1974, donc à 19 ans à Alain Prost, vous devenez champion de France senior de karting. En 75, bah vous vous lancez, c'est-à-dire que vous abandonnez le kart pour vous inscrire à l'école de pilotage parrainée par Elf. Et je voudrais savoir, longtemps, en fait, le karting, ça a été l'épreuve test de ceux qui se rêvaient pilotes de course. Est-ce qu'en 2020, c'est encore vrai ? Est-ce que le karting reste la filière de base ou ça a complètement changé ?
Non, c'est toujours pareil. La grosse différence, c'est que moi, j'ai fait du karting vers 15-16 ans. L'école de pilotage, je l'ai fait à 19 ans, parce que de toute façon, il fallait... Un an de permis.
Ah,
on
ne
pouvait pas conduire autrement qu'avec un an de permis. Minimum.
Ça, c'est fini aujourd'hui.
Ah non, c'est fini. Mais la différence, c'est qu'aujourd'hui, les champions de F1 d'aujourd'hui, les Max Verstappen, des pilotes comme ça, Max est quand même certainement un peu une extrémité. Il a commencé à 4 ans, 4 ans et demi, le karting. Mais il n'y a pas un très jeune pilote poussé par ses parents qui n'est pas en karting à 7-8 ans.
D'accord.
Voilà. Donc, c'est ça la grosse différence.
Alors, on en était à l'école de pilotage parrainée par Elf. Bon, très vite, alors la même année, je crois, celle où on vous prend dans cette école, vous êtes vainqueur du volant Elf, puis champion de France, champion d'Europe de Formule Renault. En 79, vous êtes champion d'Europe de Formule 3, ça se précise. Alors, la logique veut que vous passiez en Formule 2. Or, Alain Prost, je voudrais que vous nous expliquiez comment, en 80, vous êtes directement recruté comme pilote de Formule 1 par McLaren. Vous êtes passé directement de la Formule 3 à la Formule 1.
Oui, j'ai vraiment tout fait pour ne pas faire de la F2. À l'époque, Jean-Marie Balestre, le président de la fédération, voulait essayer de me pousser mais j'avais pas de budget. Et donc, je sentais qu'il fallait vraiment que je fasse le pas, sinon je pouvais m'enterrer en F2, faire peut-être une année de F2, puis ne rien avoir derrière. Et là, vraiment, c'est François Guittert, à l'époque de chez Elf, qui avait vraiment aidé beaucoup de jeunes pilotes français, et donc qui m'a invité aux États-Unis.
Ouais.
Avoir les deux derniers Grands Prix à côté de New York, la Watkins Glen et puis Montréal. Et donc là, on a pris des contacts et il se passait toujours des choses. Et contacts vraiment avec Ligier et aussi avec Marlboro, donc McLaren. Et puis, ils m'ont proposé d'ailleurs de faire le dernier Grand Prix. À l'époque, c'était absolument incroyable parce que parce qu'il y avait un pilote, je ne m'en rappelle plus d'ailleurs, qui n'était plus là.
Donc directement.
Oui, oui. Et j'ai refusé.
Ah, vous avez refusé.
J'ai refusé et je me suis... Vraiment, ça a été une période incroyable parce que je me suis dit, non, je ne sens pas, je n'avais pas du tout l'expérience de la F1. J'avais peur de me griller sur un circuit que je ne connais pas, une voiture que je ne connais pas, etc. Monter de la F3 à F1, c'était... Je me suis dit, non, je préfère que vous organisiez des bons essais à un endroit que je connais, quitte à être, bien entendu, directement... avec d'autres pilotes, quoi. Pour dire ça, j'ai pas de problème.
Et c'est là que vous faites les essais et vous arrivez à des temps meilleurs que le numéro 1 de leur écurie.
Alors, j'ai fait les essais au Castellet. C'est un circuit que je connaissais bien, mais c'est eux qui ont proposé d'aller au Castellet avec 3 ou 4 pilotes. Et c'est vrai, par contre, moi, à l'époque, on n'avait pas de portable. Et je peux vous dire que j'avais pas. J'attendais vraiment un message, j'attendais un coup de fil. Ça a duré quand même pratiquement pendant 3 semaines, mais j'avais rien d'autre. Hein. J'étais presque prêt à retourner travailler avec mon père. Et voilà, donc c'est dans la vie, il faut aussi des circonstances favorables. Mais j'avais été repéré par les gens de McLaren et d'autres teams déjà depuis longtemps. Et surtout en ayant gagné le Grand Prix de Monaco en F3.
Oui, oui, c'est ça.
Bon, ça a été vraiment à l'époque, les managers regardaient, allaient sur la piste, regardaient un peu comment on se débrouillait.
Vous dites à l'époque, ils ne le font plus
un
aujourd'hui.
Un peu moins maintenant. On le fait, moi je le fais d'ailleurs. Mais c'est difficile, il y en a plus qu'avant. Si vous voulez voir tous les pilotes, c'est... Alors des moments, vous avez des gens qui vous disent, ah, regarde celui-là, mais ça fait. C'est assez compliqué.
C'est avec Alain Prost. Qu'on roule cet après-midi, c'est formidable. On le retrouve tout de suite.
Europe 15h22, on retrouve Isabelle Morizet pour la suite de son entretien avec Alain Prost. Vous écoutez, il n'y a pas qu'une vie dans la vie.
On est cet après-midi en compagnie du seul pilote français à détenir le titre de quadruple champion du monde de F1, Alain Prost, bien évidemment, qui, depuis juillet, est nommé directeur non exécutif de Renault F1 Team. Alors voilà, on roule ensemble. Cher Alain, vous avez, je reprends hein, le fil rouge, on continue d'agiter les souvenirs. Vous avez 24 ans, on est le 13 janvier 80 et pour la première fois de votre vie, vous allez prendre le départ d'un Grand Prix en Formule 1. Alors on est à Buenos Aires, c'est le Grand Prix d'Argentine, votre McLaren n'est pas la meilleure Formule 1 de la course, mais vous savez que vous jouez votre destin. Vous pouvez nous raconter le tout premier Grand Prix ?
La toute première saison, le tout premier Grand Prix, c'est vraiment quelque chose d'assez incroyable. Mais ce Grand Prix-là, je sais pas, j'avais quand même en même temps une grande confiance en moi. Mais vous arrivez dans un monde totalement, enfin différent, bien entendu. Quand vous arrivez sur un circuit et que vous voyez, surtout en Argentine, enfin 100 000, 150 000 spectateurs, des gens qui vous connaissent déjà, parce que vous faites partie d'un microcosme, et c'est totalement différent. Et puis surtout, le contact avec les autres pilotes. Parce que là, vous voyez, moi j'étais, quand j'ai commencé vraiment à être hyper passionné par ça, mes idoles, c'était bien sûr Jackie Stewart, mais c'était Emerson Fittipaldi, c'était Jacques Lafitte, Jean-Pierre Jabouille, etc.
Jackie Stewart qui, quelques temps plus tard, dira que le meilleur d'entre tous, c'est vous.
Alors là, je ne l'ai pas côtoyé là, mais il y avait, bon, bien sûr... Niki Lauda un peu plus tard. Donc là, vous êtes dans ce milieu-là, quand il y a des briefings et qu'on est tous ensemble, et surtout, c'est là où c'est très différent d'aujourd'hui, c'est que vous êtes complètement adoubé par ces gens-là. Ils venaient vers moi, comme le jeune, et ils me donnaient des conseils, des tuyaux. On était toujours au même hôtel, tous ensemble. Donc on se retrouvait à la piscine, boire un verre le soir, etc. Et c'est incroyable, c'était une famille sur la piste. Bon, il se passait, il y avait la compétition, etc.
C'est certain, mais on arrive à dormir la nuit qui précède la toute première course de sa Giro F1.
Je n'ai jamais bien dormi, donc ça n'a pas changé grand-chose. Bon, le directeur de course était Juan Manuel Fangio, en plus, ce jour-là.
Ah oui, Fangio.
Donc la piste était, bon, ça se dégradait, il y a eu pas mal d'accidents.
Je le redis, votre McLaren n'était pas terrible.
Oui, bon, elle n'était pas terrible, elle n'était pas toujours très fiable et surtout un peu dangereuse. Parce que cette année-là, j'ai eu beaucoup d'accidents, j'ai eu beaucoup de chance d'être indemne, parce que j'en ai eu beaucoup. C'est d'ailleurs pour ça que j'avais décidé à la fin de l'année de ne pas rester.
Mais vous avez terminé sixième, c'est ça ?
J'ai terminé sixième de la première course, oui, exactement. Et cinquième de la deuxième. C'est plutôt même la deuxième, parce qu'on parle souvent de la première, mais la deuxième a été une course beaucoup plus aboutie pour moi, au Brésil. Là où j'ai été, je pense que vraiment les lettres de noblesse étaient plutôt sur cette course-là.
Alors, on était en 80. 40 ans plus tard, alors que les voitures sont toutes exceptionnelles, est-ce que la part de stratégie en course, Alain Prost, reste aussi importante qu'à l'époque ?
Aujourd'hui, voilà, si on peut faire un peu un parallèle quand vous parlez de stratégie, la stratégie, on la faisait un peu en amont avec les ingénieurs, bien entendu, mais 80% de la stratégie, c'était nous qui la faisions dans la course, en fonction de ce que l'on sentait, de l'usure des pneumatiques, l'usure des freins, même de la stratégie s'il fallait pousser à un moment ou à un autre, parce que on a connu aussi des autos, si vous poussiez avec le plein d'essence, au bout de 4 tours, vous n'avez plus de freins, plus de pneus, etc. Ouais. Donc c'était nous qui étions les maîtres du jeu, et on donnait les informations aux ingénieurs. Alors qu'aujourd'hui, c'est le contraire.
C'est l'inverse, c'est eux qui donnent
c'est-à-dire qu'ils ont
les infos.
Les éléments, ce qu'on dit, enfin, on appelle communément les data.
Voilà. Sont c'est-à-dire des serveurs ultra puissants les salles de contrôle des écuries, dans les garages, qui sont tous d'ailleurs en Angleterre. C'est étonnant.
Déjà, tout le monde connaît tout. C'est-à-dire autant sur la voiture que sur le moteur, mais à tous les niveaux. Vous avez des gens, enfin énormément de personnes qui sont derrière les écrans et qui regardent tout.
Alors, revenons à vos débuts, Alain Prost. En fait, très vite, vous allez résilier votre contrat avec McLaren pour signer avec l'écurie française Renault. Vous allez devenir le coéquipier du pilote numéro 1 à l'époque de l'écurie, René Arnoux. Bon, on ne va pas dire que ça va très très bien se passer entre vous parce que vous allez faire de meilleurs temps que lui. Je voudrais qu'on aborde ce sujet assez sensible des pilotes dans une même écurie, car il y en a toujours deux, il y a le pilote de réserve aussi. Donc forcément, il y a un pilote qui est considéré comme le numéro 1. Donc le premier adversaire d'un pilote de Formule 1, est-ce qu'on peut dire que c'est son coéquipier dans sa propre écurie ?
C'est l'évidence même. C'est malheureux parce que c'est pas très bien terminé dans certains cas, hein, dans l'histoire de la Formule 1 et de la course en général. Il y a eu des cas, notamment le cas de Didier Pironi avec Gilles Villeneuve, etc., qui peuvent aller vraiment très loin. Donc il faut essayer de ne pas le faire aller aussi loin que ça, c'est sûr. C'est pour ça d'ailleurs que sur la F1 moderne, depuis pas mal d'années, dans une équipe, ça marche beaucoup mieux quand on a un vrai pilote numéro 1 et un vrai pilote numéro 2. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'ambiguïté. Donc si vous pensez, moi je l'ai vécu dans les deux sens, donc c'est très facile pour moi de le dire. Je l'ai vécu avec des coéquipiers où j'ai jamais eu un contrat de pilote numéro 1. C'est-à-dire que je n'ai jamais signé un contrat en étant numéro 1. Je ne l'ai jamais demandé. Voilà, certainement à tort, c'est peut-être, j'aurais pu. Mais par contre, c'est vrai que, allez, par exemple avec John Watson, qui était un grand pilote connu et avec beaucoup d'expérience, même la première année, j'avais l'impression de devenir le numéro 1. J'étais un peu le chouchou.
Et alors avec Ayrton Senna, parce que personne n'a oublié en 89, alors, le fameux Grand Prix du Japon.
Mais
vous couriez tous les deux pour McLaren. Ouais. Il y a eu un duel hallucinant.
J'allais venir à Ayrton, justement, parce que c'est la seule période où je l'ai vécu, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'on était normalement pilote numéro 1 tous les deux. Mais c'est vrai que quand vous voyez qu'il y a une sorte de préférence ou de psychologiquement une tendance qui va dans l'autre sens, c'est-à-dire que Honda le supportait beaucoup, le futur c'était, parce qu'il y a une génération d'écart, il y avait 5-6 ans, mais c'est ce qu'on appelle une génération, et c'est normal, c'était un peu le futur. Quand vous sentez ça, vous ne pouvez pas être performant de la même manière. C'est d'ailleurs que j'avais dit souvent à René Nys, je dis, écoute, tu dis publiquement qui est numéro 1, qui est numéro 2, ce sera beaucoup plus simple. Voilà, pour moi.
Mais ça ne vous a pas empêché de devenir quadruple champion du monde. Alain Prost, on vous retrouve tout de suite.
Europe 1. Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Se poursuit donc avec Isabelle Morizet et son invité cet après-midi, Alain Prost.
Alain Prost. Bon, s'il y a bien un champion pour lequel le mot légende n'est pas galvaudé, c'est vous, dont le palmarès en Formule 1 est de 51 victoires de Grand Prix, 33 pole positions, 106 podiums et bien sûr 4 titres de champion du monde en 85, 86, 89 et 93. Bref, vous restez en 2020 l'un des 5 meilleurs pilotes de toute l'histoire de la Formule 1. Alors que si vous débutiez aujourd'hui, vous ne pourriez peut-être pas accéder à la Formule 1, car il faut en effet un père plutôt fortuné pour aborder la F1 désormais, c'est ça ?
Oui, bon, moi j'ai de la chance, en même temps des opportunités de trouver des gens, mais avec une période où j'ai pu par moi-même trouver les ressources nécessaires. Aujourd'hui, s'il fallait faire 4, 5, 6 saisons de karting et 3, 4 saisons de Formule 2, ce qu'on appelle de promotion avant la F1, pour vous donner un ordre d'idée, la F2, c'est à peu près entre 1,5 million et 2 millions d'euros par an.
par an.
Voilà, donc vous trouvez jamais, à moins que vous soyez pris dans une filière, et encore, même les gens de la filière, enfin, on ne va pas les citer, c'est les gens qui gèrent la F1 aussi, bien entendu, que ce soit Red Bull, Ferrari, Renault, etc., McLaren, ils ne payent pas la totalité. Donc, c'est soit des autres sponsors, soit souvent de l'argent familial. Donc,
l'argent familial, la raison de 2 millions d'euros par an.
Le problème qu'on a aujourd'hui dans la course, c'est que de l'argent, il y en a, mais c'est un peu comme les circuits automobiles, ils sont un peu décalés, quoi. Mm-hmm. Donc, y a des gens très riches qui sont capables de mettre de l'argent. Et ça peut prendre la place à des gens qui sont moins fortunés.
Justement, j'ai appris une chose absolument folle. Vous allez me dire si c'est vrai, Alain Prost. Il paraît que le jeune Esteban Ocon, qui a intégré l'équipe Renault de Formule 1, n'a pas pu garder sa place la saison dernière, sa place de pilote au sein d'une écurie de course indienne, car cette écurie a été rachetée par le père milliardaire d'un pilote, papa canadien, qui a donc remercié Esteban pour mettre son fils à la place.
Oui, c'est un peu plus complexe que ça, mais il y a quand même une part de raison, c'est vrai. Mais lui, il était dans la filière Mercedes. Et il y a eu peut-être une mauvaise entente ou bien un mauvais timing pour lui. Mais c'est aussi parce que la place, il fallait une place pour le fils de...
Il fallait absolument une place pour le fils de celui qui venait de racheter l'écurie de course. Exactement. Alors, on a évoqué les prix en F2, mais pour faire vivre une écurie de Formule 1 en budget moyen annuel, il faut tourner autour de combien hors salaire des pilotes ? C'est 150, 170, 180 millions d'euros dans les nouveaux règlements d'ailleurs. Maintenant, ça va changer, n'est-ce pas ?
Oui.
Ça va diminuer les coûts.
Alors, si on parle en euros, grosso modo, dans les nouveaux règlements, à partir 2021, le cap, il est à 175 millions de dollars, donc c'est 160, on va dire 165 millions d'euros. Donc, voilà, c'est c'est à peu près le coût d'une équipe, enfin, en fonctionnement, hors motoriste, hein, puisque les motoristes, c'est encore une dépense supplémentaire.
Oui.
Mais les grandes équipes, aujourd'hui... sont à pas loin du double, hein, quand même.
Elles sont à pas loin du double, par exemple Mercedes, c'est ça ?
Oui, à peu près. Ouais.
Alain Prost, l'espionnage industriel, il n'a pas besoin d'attendre le déplacement des Formule 1 pour sévir, n'est-ce pas ? Comment une écurie fait-elle pour préserver ses secrets qui relèvent de la fabrication des pièces à la stratégie de course ?
Alors, en fin de compte, on a une chance à ce niveau-là, c'est que... Bien sûr qu'elle se fait, cet espionnage, entre guillemets, peut éventuellement se faire par le brassage des compétences, c'est-à-dire des ingénieurs qui partent d'une équipe à l'autre. Mais, ou bien...
des pilotes !
Oui, mais tout le monde peut amener un peu d'informations importantes et nécessaires. Mm-hmm. Si ce n'est que la technologie d'une F1, c'est une globalité. C'est-à-dire que vous prenez l'aileron avant de la Mercedes qui gagne les championnats, vous le mettez sur une autre voiture, enfin, ou une autre.
Ça ne marchera pas aussi.
Mais ça ne marchera pas. C'est pas, enfin, je veux dire, c'est sûr que ça ne marchera pas. Quand vous voyez la complexité des voitures aujourd'hui, c'est absolument. Et donc, c'est un peu notre chance. En fin de compte, il y a eu des exemples frappants. L'ingénieur, enfin, sans citer son nom, qui est passé de McLaren. Moi, je l'ai connu chez Williams, après McLaren, chez Mercedes. Il a été champion du monde plusieurs fois. Ben, il va chez Williams. Il n'y a pas peut-être les mêmes compétences, les mêmes budgets aujourd'hui, mais ça ne marche pas. Et ça peut être même pire. La personne qui vous amène soi-disant le truc miracle et qui vous déstabilise ou qui vous change un peu votre concept, ça peut être pire.
Ça peut être
pire. Et donc, c'est pour ça qu'on est un peu à l'abri. Mais bon, on n'est jamais à l'abri.
Mais par exemple, Esteban Ocon, qui roule pour Renault cette année, il paraît qu'à la fin de la saison dernière, alors qu'il était pilote donc, chez Mercedes, quand la direction de Mercedes a appris qu'il allait signer chez Renault, on a cessé immédiatement de lui donner des infos sur le développement de la prochaine voiture. Oui, quoi. On l'a écarté, Esteban.
Ils ont été très cool. Et ce qui s'est passé là, c'est tout à fait normal. Enfin, je veux dire, on ne va pas donner les derniers éléments de développement, les dernières connaissances, même s'il a fait encore du simulateur pour eux, même s'il a fait quelques essais de pneumatiques, mais il nous amènera toujours une expérience et quelques infos qui sont nécessaires. On ne peut pas tout bloquer. C'est un milieu qui est tellement professionnel d'un côté, donc on sait quand les gens sont... enfin, agissent d'une manière correcte. Donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là.
Alors tout à l'heure, on a évoqué tous les ingénieurs qui étaient concentrés sur leurs écrans d'ordinateur pendant la course pour transmettre grâce à des calculs hallucinants avec des paramètres qui changent tout le temps les meilleurs conseils en temps réel aux pilotes. J'ai appris que sur une Formule 1, il y a en moyenne 200 capteurs qui sont installés comme ça, qu'envoient donc un nombre colossal de données analysées en temps réel dans la salle de contrôle de l'usine par des serveurs ultra puissants. Donc je vais vous poser une question de néophyte, hein. Mais est-ce qu'en retour, Alain Prost, une Formule 1 peut être réglé en temps réel par les ordinateurs depuis la salle de contrôle pendant qu'elle roule?
Alors, moi j'ai connu ça en 88 d'ailleurs, où ce qu'on appelait le système de télémétrie, c'est-à-dire qu'on voyait toutes les informations, etc., à deux voies. C'est-à-dire qu'on pouvait à l'époque du stand, ou en tout cas ça commençait, à régler notamment les moteurs. Et ça a été interdit. Voilà.
Et pourquoi ça a été interdit?
Parce que là, on aurait pu tout imaginer, justement, dans le cadre de laisser le pilote aussi manager la voiture, et ne serait-ce que pour pas... Moi, j'ai eu un doute à un moment, je dis vraiment clairement, enfin, tout le monde se connaît, sur un réglage de moteur qui a quand même évolué pendant la course à l'époque d'Ayrton, et donc il faut absolument éviter ça. Donc on a l'information, mais on ne peut pas changer. On va donner l'information au pilote, c'est là la différence.
D'accord.
Il a énormément de possibilités dans la voiture, dans le cockpit, de changer plein de paramètres sur sa voiture, que ce soit sur le plan châssis, frein, et bien entendu moteur.
Donc tout ça pendant qu'il conduit à des vitesses hallucinantes.
Ça, c'est la grosse différence entre nous et eux, aujourd'hui. Ouais. C'est hallucinant le travail qu'ils peuvent faire ou qu'ils doivent faire de temps en temps, que ce soit pendant les essais et bien entendu pendant les courses, avec des messages radio. C'est pour ça qu'ils parlent beaucoup. Mais la bonne information au bon moment peut être vraiment extrêmement importante.
Justement, on va évoquer ça tout de suite, dans une poignée de secondes. On se retrouve immédiatement avec Alain Prost.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Avec Isabelle Morizet sur Europe 1. Europe 1.
Alain Prost est l'invité d'Isabelle Morizet cet après-midi. Il n'y a pas qu'une vie dans la vie, la suite sur Europe 1.
Alain Prost, on évoquait à l'instant l'importance de l'informatique dans les courses de Formule 1 et les serveurs ultra puissants, aussi rapides que dans l'industrie spatiale, d'ailleurs utilisés par les écuries de course. D'ailleurs, puisque j'évoque l'industrie spatiale, j'ai appris que la salle de contrôle de Red Bull dans l'usine de Milton Keynes, au Royaume-Uni, puisque elles sont pratiquement toutes en Angleterre, les usines, eh bien cette salle de contrôle, elle est identique à la salle de contrôle de la NASA à Cap Canaveral, c'est dire. Donc, elle est très simple, ma question. Est-ce qu'un jour, l'intelligence artificielle va finir par prendre le pas sur l'humain dans les courses de F1?
Alors, c'est sûr que c'est un des problèmes qu'on a, mais depuis très 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 longtemps. Hein. C'est les questions qu'on se pose justement sur... il faut que ça reste humain. Donc, il faut que le pilote ait une importance considérable. En tout cas, à titre personnel, tout le monde connaît mon point de vue. J'aurais même été encore plus loin sur les règlements à partir de 2021 pour donner encore plus d'importance aux pilotes et même de temps en temps aux ingénieurs.
C'est-à-dire, qu'est-ce que vous auriez ajouté dans ces règlements?
Sans rentrer dans le détail, j'aurais allégé un petit peu, par exemple, les aides, ce qu'on appelle les aides au pilotage. Voilà. Alléger même certaines informations. Je vous donne juste un exemple. Oui. Le pilote aujourd'hui, par rapport à notre période, on voit la température des pneus, tour après tour, virage après virage. On va lui conseiller à certains virages de faire telle ou telle modification dans sa voiture ou bien de conduire légèrement différemment. Mais s'il n'a pas cette information, c'est à lui de gérer ça. Donc c'est les meilleurs qui vont éventuellement prendre le dessus. Donc voilà, il faut trouver le bon compromis, mais ça va dans le bon sens.
Alors, courir aujourd'hui avec cette suprématie de l'informatique et des datas, pour vous, je vous pose à vous la question, ça vous agacerait un petit peu?
Ah oui. Non, ça c'est clair. À titre personnel, je trouve ça fabuleux d'un côté, et je suis toujours extrêmement admiratif de tout ce que l'être humain en général peut faire. Et on a toujours l'impression qu'on est au bout d'un système et puis on continue, on développe, on améliore. En tant que pilote, je parle. Enfin, les ingénieurs se régalent aussi parce que voilà, chacun... C'est des domaines, à l'époque, on avait une vision globale du système. Et le pilote était vraiment l'homme au cœur de tout. Parce que c'est lui qui avait les informations, c'est lui qui sentait les choses et qui pouvait les retranscrire. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'à l'époque... les bons pilotes ou les meilleurs pilotes faisaient aussi la différence. C'est pas uniquement avec le coup de volant.
Aujourd'hui, le pilote est l'élément final.
Bah, il est l'élément final, c'est lui qui finit le travail et ce qu'on lui dit aussi de faire. Malgré tout, c'est quand même extrêmement compliqué aussi. Il ne faut pas dénaturer et dévaloriser le rôle du pilote. Mais il est quand même différent. Mais quand je vois tous ces ingénieurs alignés les uns derrière les autres et que le pilote il est au milieu de ça, au milieu d'une vingtaine, trentaine de personnes et qu'il attend lui aussi, voilà, il est certainement moins autonome d'une certaine manière. Moi, je connaissais exactement tout ce qu'il y avait sur ma voiture.
Alors Alain Prost, en préparant cette émission, j'ai réalisé qu'un pilote de Formule 1 était forcément un sportif de très très haut niveau, puisqu'il est soumis à des forces allant jusqu'à 5G, dans les accélérations, les courbes rapides, on approche presque de la pression qu'il y a dans les avions de chasse, et dans le cockpit, il paraît que la température peut monter à 50 degrés. Donc, tous les jours de l'année, il y a des entraînements très spécifiques pour les pilotes de F1, des entraînements de musculation, un travail également étonnant sur les réflexes, le champ de vision, et puis la neurostimulation pour apprendre au cerveau à traiter le plus d'informations possibles en même temps. Ce sont des entraînements, aujourd'hui en 2020, qui n'ont absolument rien à voir avec ceux qui étaient les vôtres quand vous couriez.
Exactement, non, c'est sûr. Nous, premièrement, on était livrés à nous-mêmes, au départ. Donc, il y avait des gens qui faisaient du sport, il y avait des gens qui s'entretenaient vraiment beaucoup. Alors, on avait la différence aussi, c'est que, vous voyez, vous prenez par exemple la musculature d'un cou, d'une tête.
Oui.
Parce que moi, j'ai vraiment fait énormément de tests, vraiment très, très, très discrètement. J'ai fait des tests sur le cou avec des machines incroyables, mais il n'y a rien.
Parce que c'est là que s'exerce la plus forte pression.
Oui, mais il n'y a rien de mieux que de rouler avec la voiture et de le faire d'une manière naturelle. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'ils roulent très peu, les pilotes. Ils roulent qu'en course. Le simulateur ne vous donne pas les mêmes impressions.
C'est vrai, on ne peut pas avoir ces pressions-là de 5G dans un simulateur.
Non, ce n'est pas du tout pareil. Ils sont obligés de s'entraîner aussi un peu plus en dehors, mais ils s'entraînent d'une manière beaucoup plus spécifique, beaucoup plus scientifique, puisque là maintenant on a beaucoup plus d'expérience par rapport à ça.
On sollicite beaucoup les neurones avec le travail des réflexes,
les
lumières, les boutons sur lesquels
ça
il faut appuyer à des allures absolument phénoménales.
C'est très efficace, alors que nous, on ne l'avait pas, on travaillait sur autre chose.
Le temps d'une course, un pilote perd en moyenne, paraît-il, 3 kilos. Mais je voudrais savoir s'il est vrai que le poids du pilote en Formule 1 est un facteur vraiment sensible, car en fait, des kilos gagnés ou perdus peuvent se transformer en dixièmes de seconde perdus ou gagnés, c'est ça ?
Alors, la différence aussi entre notre période et la période d'aujourd'hui, c'est assez paradoxal. Bon, d'abord, on avait des voitures beaucoup plus légères. Moi, j'ai connu des voitures à 500 kilos. Aujourd'hui, c'est 730 à peu près. Par contre, on faisait pas le pilote. C'est-à-dire qu'un pilote léger, comme moi, sur certains circuits, je pouvais avoir un avantage par rapport à un pilote très lourd. Aujourd'hui, on pèse le pilote et la voiture. Mais le poids est un facteur de performance aujourd'hui encore pire qu'à l'époque.
C'est vrai.
C'est-à-dire que 3-4 kilos sur certains circuits, c'est un dixième et demi. Et le poids du pilote, par rapport, selon la voiture avec laquelle vous êtes, si la voiture est légère et que vous pouvez mettre ce qu'on appelle des gueuses, c'est-à-dire du poids artificiel en dessous, aller à l'endroit où vous voulez, ou bien un autre qui est un peu plus lourd, et là vous pouvez avoir des écarts quand même assez importants.
Alors puisqu'on parle du poids, évoquons la taille. Les pilotes de Formule 1 sont rarement grands. Lewis Hamilton, il fait 1m74, c'était d'ailleurs la taille de Schumacher, Sébastien Vettel...
On a un grand pilote, nous.
Il fait 1m75, Fernando Alonso 1m71, bon, le jeune Pierre Gasly chez vous, chez Renault, 1m76, et vous, Alain Prost, vous mesurez 1m67. Donc, totalement allongé dans un cockpit, parce que je rappelle aux auditeurs que le pilote de F1, il est absolument pas assis, il a les pieds presque à la hauteur du visage. Allongé dans un cockpit, il vaut mieux s'étirer sur 1m70 que sur 1m90. Ça influe sur, je ne sais pas, le dessin de la carrosserie de la Formule 1 à 20 cm près.
Alors aujourd'hui, on a un pilote très grand, c'est Esteban Ocon, il fait un peu plus de, je crois qu'il fait 1m91. Nico Hülkenberg faisait 1m87 ou 88.
Alors le jeune Esteban, il fait 1m91, ça c'est une révolution alors, parce que tous les grands champions que je viens de citer font 1m70.
À 2-3 cm près, c'était très compliqué de le mettre dans la voiture, vous voyez. À notre époque, 1m91, sur certaines voitures que j'ai conduites, je pense qu'ils n'auraient pas pu. Alors, comme je vous le disais, les voitures sont beaucoup plus grandes aujourd'hui, beaucoup plus grosses, et avec une ergonomie incroyable. C'est-à-dire, vraiment, tout est adapté aux pilotes. Voilà. La différence aussi de ne pas avoir d'embrayage, comme on avait, et le levier de vitesse, vous avez des paramètres en moins pour trouver votre bonne position.
Ouais.
C'est-à-dire, sur certaines voitures, en étant petit, j'étais obligé de m'avancer, mais en m'avançant, j'avais le levier de vitesse qui était plus près de moi. Donc j'avais aussi des... Enfin, c'est pas toujours évident. Il y a presque une taille moyenne qu'on estimait à l'époque à 1m72, 75.
Ouais.
C'était beaucoup plus facile. Plus grand, c'est pas bien. Plus petit, c'est pas non plus très simple. Aujourd'hui, on peut adapter un pilote pratiquement à tout. Mais on a vu, avec, en tout cas pour nous, 1m91, il faut pas qu'il fasse 1 ou 2 cm. Il faut pas qu'il grandisse, hein, Esteban.
On retourne tout de suite à Alain Prost.
Europe 1. Une heure avec Alain Prost qui prend fin. Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Dernière partie, nous sommes avec Isabelle Morizet.
Alors, cher Alain Prost, en juillet dernier, vous avez été nommé directeur non exécutif de Renault F1 Team. Renault, bah, c'est une marque généraliste dont le marché n'a absolument rien à voir, par exemple, avec celui de Ferrari. Avec tout ce qui s'est passé dernièrement, est-ce que c'est un challenge réaliste pour l'écurie Renault de vouloir réussir en Formule 1?
Alors, c'est plus compliqué. Parce que d'abord, on part un peu de loin. Il y a eu des arrêts, hein, puisqu'ils ont racheté l'équipe il y a seulement 4 ans, 4-5 ans, alors que les autres n'ont jamais arrêté, que des grands groupes comme Ferrari, des marques comme Mercedes aussi dépensent plus d'argent. D'accord, mais une marque généraliste, on n'est pas où on devrait être, mais on va y être. Moi, c'est ce que je pense quand même. Il faut absolument qu'on soit dans le peloton de tête, c'est-à-dire qu'on soit dans les trois premiers, ça c'est certain. Mais rien que le fait d'y être, je peux vous dire que ça amène des choses absolument incroyables à cette marque et j'espère qu'on va montrer très vite qu'on mérite d'être dans le trio.
Bon, Pierre Gasly et Esteban Ocon se préparent pour le Grand Prix d'Australie en mars. Quel rapport vous entretenez au quotidien avec eux ?
Alors moi, j'ai toujours été très proche des pilotes français parce que j'attends... Vraiment, vous savez, il y a une époque, quand vous êtes un champion comme ça, vous n'avez pas envie que quelqu'un arrive tout de suite, voilà. Et puis, il y a un moment, vous prenez beaucoup de recul. Et moi, combien de fois j'ai essayé d'aider, enfin, pratiquement tout le temps, dès qu'il y a besoin de quelque chose, même de conseils, bien entendu, mais j'ai fait beaucoup de choses pour les pilotes français. Et je suis très heureux et très content de voir quand il y en a qui sont, enfin, performants. Et si je peux voir encore de mon vivant un successeur gagner le titre de champion du monde, je serais vraiment très 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 heureux.
Votre fils Nicolas est également pilote. Au départ, vous ne vouliez pas, hein, n'est-ce pas ? Il faisait ses études aux États-Unis, brillamment. Mmh. Et quand il vous a annoncé que lui aussi allait faire des courses, ça vous a chaviré.
Oui, bon, surtout il m'a piégé. Parce que
il vous a piégé ?
Oui, parce qu'il a fait un cursus à Columbia, puis bon, il l'a fait en 3 ans au lieu de 4. Il me dit, bon, si j'arrive à faire 3 ans au lieu de 4, est-ce que je peux essayer faire une année je ne peux pas te dire non, parce que c'est tout bon travail mérite une récompense d'une certaine manière. Puis il a commencé comme ça, et puis voilà, il a fait aussi plein de choses en parallèle. Il n'a jamais fait que de la course automobile. Donc
ouais,
c'est
ouais.
Devenu presque un semi-professionnel et un hobby. Bon, il a fait des essais, notamment pour Lotus en Formule 1 pendant des années,
oui.
Un simulateur aussi. Bon, les 24 heures du Mans, les championnats électriques avec moi quand j'avais l'écurie. Donc il a fait beaucoup de choses et puis ça n'a pas empêché tout ce qu'il a fait dans le passé, notamment les études, lui servent encore aujourd'hui puisqu'il fait aussi plein de... Il a toujours été comme moi, il a toujours fait des choses en parallèle.
Alain Prost, de 97 à 2001, vous avez été le patron de l'écurie de Formule 1 Prost Grand Prix. Pourquoi l'aventure n'a-t-elle duré que 4 ans ?
Bon, c'est très simple, hein. C'est tombé dans la période la plus compliquée. Parce qu'il y a eu, d'abord, le projet peut-être mal ficelé au départ ou mal compris, avec un partenaire qui n'était pas vraiment, je pense, assez motivé. Les grands constructeurs qui sont tous arrivés en même temps.
Oui.
Et c'est plein de raisons. Hein. C'est très compliqué de faire une équipe de F1 en France, hein, de toute façon, avec des budgets qui étaient...
Plus compliqué en France que dans d'autres pays.
Enfin, c'est-à-dire que là, on touche là, presque le problème, d'une certaine manière, presque politique, indirectement. Moi, j'ai eu 250 personnes dans la période où il y avait le plus de monde. Moi, j'ai comparé une fois avec Ron Dennis. Si vous enlevez les pilotes et les gros salaires, bon, on avait à peu près la même charge salariale qu'avait lui-même avec 500. Donc, c'est pratiquement le double, avec des contraintes absolument incroyables sur le droit du travail. Enfin, sur vous, c'est donc c'est très complexe. Et d'ailleurs, quand vous voulez lutter contre des personnes qui font le même travail que vous. Si vous n'avez pas toujours les mêmes règles, c'est très simple. J'ai vécu une période absolument redoutable, mais qui est une très bonne expérience. Et puis, j'ai signé des gros contrats. juste malheureusement au moment où il y a eu la crise Internet, et après il y a eu septembre 2001, qui a tout cassé.
Bien sûr.
Et donc, je vais vous donner le dernier exemple, c'est que je devais payer les moteurs à l'époque. Bien entendu, on n'a pas fait parce qu'on n'avait pas l'argent, il fallait payer tout de suite, c'était 31 millions de dollars. Sur un budget qui était à peu près l'équivalent d'une quarantaine. Aujourd'hui, bon, vous voyez, on a parlé des budgets tout à l'heure de pratiquement
175 millions.
Oui, pour le budget de cap, mais aujourd'hui c'est plutôt plus que ça. Et quand une équipe, on va dire de second plan, mais celle qui achète les moteurs, les achète pour à peu près une quinzaine de millions de dollars.
Alain Prost, alors champion de Formule 1, ça induit une certaine philosophie de vie. Bien sûr, un dépassement de soi qui pulvérise le temps dans l'ivresse de la vitesse, en restant maître de tous les dangers. Il y a vraiment peu de métiers comme ça. Pilote de chasse, par exemple. La vie hors circuit, j'imagine qu'elle doit vous sembler affolante de lenteur, en fait. Dans quelle voiture vous roulez dans la vie vraie, Alain Prost ?
Alors moi, en comparant surtout des pilotes de ma génération, j'étais certainement le pilote le plus calme sur la route et de très très loin. J'ai connu des pilotes qui étaient absolument mais incroyables, et puis on a vécu une période où il n'y avait pas de limitation de vitesse, il n'y avait pas de... Et c'était... La voiture était un élément, comment dirais-je, d'amusement, mais très souvent très très excessif, hein, vraiment, avec des trucs que j'oserais même pas raconter à la radio.
Même entre nous.
Non, mais parce que oui, c'est passé le péage quand il n'y avait pas les barrières à la vitesse la plus élevée.
Joli.
Voilà.
S'imagine dans un film de Claude Lelouch.
Moi, je ne l'ai pas fait moi, mais certains de nuit allaient sur essayer de monter l'autoroute en sens inverse. Voilà, des choses. Non, mais c'était les excès, mais ça, c'était aussi dû au fait à une certaine période où on prenait beaucoup de... Moi, j'ai jamais été comme ça, hein, c'est promis. Mais parce que j'ai toujours considéré que la route, c'était autre chose que le circuit. Aujourd'hui, je roule très calmement.
Toutes les limitations de vitesse.
Non, pas toujours, parce que je trouve que c'est très, très compliqué. C'est très difficile. Quand vous roulez beaucoup, c'est très compliqué, mais jamais de folie, quoi. Voilà, ouais, c'est tout. Ouais. Pour moi, en tout cas, j'ai toujours considéré jamais une voiture de sport, par exemple.
Jamais.
Non, je suis pas... Moi, j'aime bien les voitures où je peux mettre... Je jouais au golf à une époque. Maintenant, c'est le vélo. J'ai toujours mon vélo dans la voiture.
Donc, des grands coffres. Et aujourd'hui, vous roulez en
Renault Espace, que j'adore. Voilà.
Formidable pour le directeur, justement, de la F1. Team Renault. Alors, c'était formidable de bavarder avec vous cet après-midi. Je souhaite une superbe année à l'écurie Renault F1.
Merci.
Et elle a de la chance de vous avoir. Voilà, elle, professeur. Merci infiniment, Alain Prost.
Merci à vous.
Et je vous dis à bientôt.
À bientôt.
C'était Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Et nous retrouverons Isabelle Morizet dès le week-end prochain de 15h à 16h sur Europe 1 avec de nouveaux invités. Yannick Noah pour le samedi et Jean-Louis Aubert dimanche. À suivre, l'équipée sauvage de Mathieu Noël, la compilation du week-end. Europe 1.